Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien Radio Orient, il est 17h, voici votre rendez-vous d'information avec Wallis Glaise. Au sommaire de ce point d'actualité, à deux jours d'une rencontre bilatérale entre Donald Trump et Vladimir Poutine, les Européens se réunissent pour plusieurs réunions en visioconférence. Objectif pesé dans les négociations et affiché un front uni pour défendre leurs intérêts et ceux de l'Ukraine. Emmanuel Macron a affirmé que Donald Trump souhaite obtenir un cessez-le-feu. Notre dossier du jour sur la situation à Gaza, nous reviendrons justement sur l'annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Israël autorisera l'immigration à l'étranger des habitants de la bande de Gaza qui veulent fuir la guerre. Dans notre point d'actualité, nous commençons par Gaza. Israël autorisera l'immigration à l'étranger des habitants de la bande de Gaza qui veulent fuir la guerre en cours dans le territoire palestinien assiégé. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Cette annonce survient quelques jours après le vote du plan pour Gaza esquissé par le dirigeant israélien. Le chef de l'armée israélienne a approuvé aujourd'hui le nouveau plan des opérations militaires à venir à Gaza. Les principaux pays européens dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la Pologne étaient réunis aujourd'hui autour de Volodymyr Zelensky puis de Donald Trump pour peser sur la résolution du conflit. Parmi les points clés des deux réunions entre les dirigeants européens et Donald Trump sur la guerre en Ukraine, les questions territoriales ont notamment été évoquées. Les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne seront négociées que par le président ukrainien. C'est la position que nous soutenons, a déclaré Emmanuel Macron il y a quelques instants. L'échange avec Donald Trump a permis d'éclairer ses intentions et pour nous d'exprimer nos attentes, a-t-il également indiqué. La volonté américaine est d'obtenir un cessez-le-feu, a-t-il poursuivi, ajoutant « Nous voulons que tout ce qui concerne l'Ukraine soit discuté avec l'Ukraine ». L'Ukraine qui a ordonné l'évacuation de familles dans des localités situées près du secteur de l'est de l'Ukraine où l'armée russe a avancé rapidement ces derniers jours, qui signe donc la dégradation de la situation. Le romancier égyptien Sonala Ibrahim, célèbre pour ses critiques de la répression politique, est décédé à l'âge de 88 ans. Une annonce du ministère de la Culture égyptien. Son roman le plus célèbre, Zaat, en 1992, raconte l'histoire moderne de l'Égypte, du renversement de la monarchie en 1952 au néolibéralisme des années 90 sous le président Hosni Moubarak à travers les yeux d'une femme issue de la classe moyenne. Un contrôleur aérien de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle s'est vu retirer toute possibilité d'exercer jusqu'à nouvel ordre après avoir dit en début de semaine Free Palestine lors d'un échange radio avec l'équipage d'une compagnie aérienne israélienne. Le ministre des Transports a appelé à une sanction à la hauteur de la gravité des faits. Emmanuel Macron a officiellement reconnu que la France avait mené une guerre au Cameroun contre des mouvements insurrectionnels avant et après l'indépendance de 1960, marquée par des violences répressives, dans un courrier à son homologue camerounais Paul Biya. Direction la Nouvelle-Calédonie, le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, principale alliance indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, a confirmé qu'il rejetait l'accord de Bougival signé début juillet avec l'État et les non-indépendantistes. Ce texte prévoit notamment la création d'un État de Nouvelle-Calédonie et d'une nationalité calédonienne. C'est la fin de votre point d'actualité. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes bien toujours à l'écoute de Radio Orient, notre dossier du jour consacré à la situation à Gaza. Nous revenons sur l'annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Israël autorisera l'immigration à l'étranger des habitants de la bande de Gaza qui veulent fuir la guerre. Loïc Barrière.
Lors d'une interview en hébreu à la chaîne de télévision internationale I24 News, Benjamin Netanyahou a été interrogé sur la possible émigration de Gazaouis à l'étranger. Cela arrive dans tous les conflits, a dit le Premier ministre israélien. Il a cité l'exemple de la Syrie, de l'Ukraine et de l'Afghanistan où des millions de personnes sont parties à l'étranger. Il affirme qu'il autorisera le départ des Gazaouis. Nous ne les poussons pas dehors, mais nous leur permettons de veut partir et c'est ce qui se passe, a-t-il affirmé. Le Premier ministre israélien a indiqué parler à plusieurs pays d'accueil possibles. Il a ajouté, je cite, que la chose la plus naturelle pour tous ceux qui disent se soucier des Palestiniens et veulent les aider est d'ouvrir leurs portes. Cette annonce intervient alors que l'armée israélienne se prépare à lancer une nouvelle phase de ses opérations militaires. Netanyahou a donné l'ordre de prendre le contrôle de la ville de Gaza et de camps de réfugiés voisins, l'une des zones les plus densément peuplées de l'enclave palestinienne. L'annonce de ce plan a suscité une vaste réprobation internationale. L'ONU a mis en garde contre une nouvelle calamité aux graves conséquences régionales.
De nombreux dirigeants mettent en garde Israël contre ce projet, à l'image d'Emmanuel Macron. Pourquoi ce plan, s'il est mis en œuvre, serait-il une étape majeure dans la guerre menée par Israël depuis octobre 2023 ? Élément de réponse avec David Régouleros, consultant en géopolitique.
Oui, alors effectivement, l'annonce a été faite à l'issue de plusieurs heures de discussion au sein du cabinet de sécurité. C'est pas uniquement des critiques au niveau international. Il y a beaucoup de critiques en interne en Israël, puisque Yair Lapid a considéré que c'était un désastre annoncé. C'est la terminologie qui est reprise d'ailleurs par le président Emmanuel Macron, et que effectivement l'essentiel du panel politique en Israël considère que c'est un plan très dangereux. D'ailleurs, lors de discussions du conseil du cabinet de sécurité, le chef d'état-major Eyal Zamir a considéré que c'était un plan qui était difficilement réalisable. Il avait proposé un plan alternatif qui n'a pas été validé. Donc on voit qu'il y a, de la part de l'establishment militaire, des réserves. C'est plus que des réserves, c'est même une opposition. Mais en sachant que Tsahal sera obligé effectivement de se soumettre aux décisions politiques, mais il y a une forme de consensus contre le plan qui a été présenté, à la fois au niveau international et au niveau interne. Ce qui est évidemment très préoccupant au regard de l'intransigeance évidemment manifestée par le Premier ministre.
Pourquoi ce projet est-il dangereux ? Pourquoi de nombreux responsables considèrent que c'est un désastre annoncé ?
De toute façon, il y a les cinq principes qui ont été établis à l'issue de ces quelques 6 heures de délibération. Donc, premier point, un démantèlement définitif du Hamas, le retour des otages vivants et décédés, la démilitarisation de l'enclave et un contrôle sécuritaire d'Israël avec une très hypothétique mise en place de gouvernance civile, en sachant que du point de vue du Premier ministre, selon la formule qu'il avait adoptée fin 2023, ce serait ni Hamastan ni Fatah Astan, c'est-à-dire l'autorité palestinienne. Mais on voit très mal quelle pourrait être l'incarnation de cette gouvernance civile, et c'est bien là-dessus que d'ailleurs insiste Tzal, le chef d'état-major, en disant que de toute façon les modalités de ce plan sont très très difficiles à réaliser, et il a même dit à l'endroit de Itamar Ben-Gvir, l'un des deux ministres d'extrême droite, qui eux ont considéré que le plan d'ailleurs n'était pas suffisant dans ses modalités. Il réclamait notamment une réoccupation annexion de Gaza, ce qui n'a pas été validé officiellement par le Premier ministre. Et donc le chef d'état-major considère qu'il n'y a pas de solution humanitaire, notamment pour déplacer plus d'un million de personnes de Gazaville vers le sud. Donc c'est ce qui avait justifié, du point de vue d'Eyal Zamir, d'ailleurs un plan alternatif, plus modeste, mais plus réalisable. Donc le Premier ministre, en réalité, navigue au gré des contradictions qui traversent effectivement son cabinet.
C'est une opération à haut risque pour l'armée israélienne, car le Hamas se prépare à des combats intenses. On imagine que dans une ville aussi dense que Gaza, des combattants du Hamas pourraient se cacher et se transformer en snipers.
Oui, il y a les deux principales inquiétudes du chef d'état-major Eyal Zamir qui ont été soulignées dans le cadre de ces discussions, c'est d'une part que ça mettrait directement en jeu la vie des derniers otages vivants. Et d'ailleurs, le Hamas n'a pas manqué de faire savoir que si le plan était mis en œuvre, ça condamnait à mort les derniers otages vivants. On estime qu'il y a 20 ou potentiellement 22 otages encore en vie. Et puis, la deuxième chose, c'est les pertes attendues de Tzahal, alors que l'armée est en guerre depuis octobre 2023. Il y a une usure. Il y a effectivement même certains réservistes qui refusent de retourner au combat. Et donc le chef d'état-major en est conscient, parce que de toute façon, l'armée se retrouverait d'une certaine manière prise dans toute chose égale par ailleurs, une forme de syndrome vietnamien. Une armée conventionnelle, la hantise pour une armée conventionnelle, c'est de se retrouver dans une situation de guerre urbaine, de guérilla urbaine, où il y a une forte imbrication des civils et des militaires, et où les militaires occupants sont susceptibles de faire l'objet de poursuites en matière de crimes de guerre, compte tenu de cette imbrication insoluble à gérer pour une armée conventionnelle.
C'était David Rigouleros, consultant géopolitique et chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique au micro de Loïc Barrière. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Merci à Raymond pour la réalisation. Bonne suite des programmes sur Radio Orient. Vous êtes bien.
Radio Orient, sport.
Ouais, place au sport à présent. Nous commençons ce journal des sports par une info mercato. 6 ans après son départ définitif du Paris Saint-Germain en 2019, le gardien de Francfort, Kevin Trapp, 35 ans, pourrait retrouver la capitale française, mais cette fois sous les couleurs du Paris FC. Selon les informations du Parisien, le club promu en Ligue 1 avance pour s'attacher les services de l'Allemand sous contrat jusqu'en juin 2026 à l'Hertha Francfort sur ce mercato d'été. Vainqueur de sa première Ligue des Champions en mai dernier, le Paris Saint-Germain va tenter de devenir le premier club français de l'histoire à remporter la Super Coupe d'Europe face à Tottenham ce soir à 21h à Udine en Italie. Pour ce choc, le coach parisien Luis Enrique doit composer sans Neves, suspendu, Mayulu blessé, Kimpembe en phase de reprise et Zabarni, l'Ukrainien qui n'a eu droit qu'un seul entraînement depuis son arrivée. Le gardien italien Donnarumma qui a fait ses adieux au club n'est évidemment pas sur la feuille de match et Lucas Chevalier prendra place dans la cage rouge et bleue. Et après justement Lucas Chevalier vendu au Paris Saint-Germain pour 55 millions d'euros, Lille perd encore un cadre sur ce mercato d'été avec le départ du défenseur central Bafodé Diakité pour Bournemouth. Les Cherries ont officialisé le recrutement de l'ancien Toulousain acheté 40 millions d'euros et signé jusqu'en juin 2030. Le troisième tour préliminaire, retour de la Ligue des Champions, s'achevait hier soir avec 10 rencontres au programme et un joli renversement de situation signé Fenerbahçe face au Feyenoord Rotterdam 5-2 après la défaite du match aller 1-2. Direction les barrages donc pour les Turcs qui seront accompagnés par d'autres écuries réputées, il faut le dire, en Europe comme Copenhague, Bruges, Benfica ou encore l'Étoile Rouge de Belgrade et les Écossais du Glasgow Rangers. Karabag, Paphos, Ferencváros ou encore la surprenante équipe kazakh du Kerat Almaty atteignent également le tour suivant et peuvent toujours rêver de la phase finale de la Ligue des Champions. Merci de nous avoir suivis.
C'était Radio Orient Sport.